Bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe. Je suis encore secoué par l'émission d'hier, hier mardi, sur la prison de Bois d'Arcy. J'ai pas pu écouter l'émission jusqu'au bout parce que les bruits dans les couloirs, les bruits des détenus qui tapent sur les portes, ça m'a rappelé 14 mois de détention, voilà. Et donc beaucoup d'émotions. J'étais heureux de retrouver l'air libre et le ciel dès que je suis sorti parce que en entendant ces bruits-là, j'y étais vraiment. Donc merci pour toutes les émissions et notamment celle qui parle de la prison parce qu'on n'en parle pas assez à mon goût encore. Et puis tu avais l'air surpris qu'il y ait des surveillants qu'il y ait des opinions si intéressantes, si pertinentes. Oui, effectivement, la plupart des surveillants se font pas d'illusions non plus sur la prison. Ils savent très bien que ça n'a aucun effet dissuasif. Et moi, j'en ai rencontré des très sympas. Je dirais que c'est un boulot très difficile et que j'en ai rencontré seulement 5 à 10% qui étaient vraiment, on dira, manipulateurs, pervers, enfin, du genre à refuser une douche, quoi, par exemple, alors qu'ils pouvaient la donner. Et que, pour moi, par exemple, c'était vachement important d'avoir plus que les 3 douches réglementaires par semaine, en maison d'arrêt, en tout cas. Voilà. Donc, c'est pas un boulot facile. Je crois que malheureusement, trop souvent, ils noient leurs difficultés dans l'alcool, ces gens-là, les surveillants. Et que c'est vrai que c'est pas un boulot facile. Ils ont aussi souvent des problèmes de couple, il paraît, mais je les comprends. Disons que j'aimerais pas faire leur boulot. Voilà.
Ouais, je voudrais juste réagir un petit peu à tout ce qui se passe là sur la banlieue. C'est vrai que depuis les lois Sarkozy, qui voit la 9 va en prison le 10. Voilà.
Salut Daniel Mermet, c'est Walid, j'habite à Grasse. Je voulais réagir là par rapport à votre émission sur les jeunes en prison. Je travaille à Grasse, chauffeur de bus, et il m'arrive de faire la ligne de la prison. Et justement, c'est très bien ce que vous faites parce que il n'y a pas de débat en France, en fait, sur la réalité de ces jeunes. Et personne ne cherche, en fait, à faire évoluer la situation de ces jeunes-là. Je voudrais réagir par rapport au témoignage de cette dame, en fait, qui disait « retournez chez vous », qui parlait des allocations, tout ça, enfin, qui... En fait, ce qu'elle a pas compris, c'est que avec cette vision binaire là de chez eux et chez nous, elle divise et elle crée des clans. Et ces pauvres jeunes, eh ben ils ont cette même vision qu'elle. Et pour eux, ils ont grandi toujours dans ce clan, dans leur cité, dans leur réalité en fait bien difficile. Et il faut vivre ce que eux ils ont vécu en fait. Les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, les problèmes affectifs, les problèmes de reconnaissance, en fait, pour vraiment comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'en sortir comme ça. Et avec des tâches comme la femme qui a appelé et qui a fait ce témoignage, eh ben on risque pas de s'en sortir. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont un peu du plomb dans la tête et qui savent discuter, qui savent reconnaître la différence, qui justement en fait nous complète et non nous divise. Quand t'es plus dans le clan des Lascars, eh ben t'es dans le clan des musulmans. Et quand t'es dans le clan des musulmans, ben t'es un terroriste. Et quand t'es plus dans le clan des Lascars ni des musulmans, t'es dans le clan des vendus. Et puis t'es toujours dans une case en fait. Et puis on met les gens dans une case comme ça. Il faut arrêter cette vision binaire en fait. On est tous ensemble, en fait, pour avancer. Et il faut construire donc dans la complémentarité et puis pas dans la division.
Oui, salut Daniel. Voilà, c'était pour dire que quelque chose m'inquiète dans le langage des jeunes là, de la prison du Bois d'Arcy, c'est l'utilisation du mot victime comme insulte. La victime devient en fait quelque chose de coupable. Elle devient quelque sorte coupable. C'est un peu comme si dans notre société, le faible serait coupable d'être faible. C'est-à-dire qu'il pourrait plus ni revendiquer quoi que ce soit. C'est sa faute, il est faible. Et ça, c'est peut-être bien ce que cherchent nos puissants dirigeants, hein. Ça les intéresserait beaucoup. Je ne sais pas s'ils sont pas en fait parvenus dans la jeunesse à faire passer un peu cette sale manie, si on peut appeler ça comme ça, qui les arrange bien. Et ça, c'est quand même assez inquiétant au niveau social global, quoi. Ça fait un petit peu peur s'ils arrivent à faire ça, si je sais pas, si je psychote un peu peut-être, hein. mais ça fait peur. Allez, c'est François de Cannes. Salut, Daniel.
Bonsoir, Daniel de Paris. Je vous appelle parce que je viens d'écouter votre émission sur les prisons pour les mineurs. Je suis un peu scandalisée par vos propos. Mon fils a été racketté et brutalisé pendant des années par des jeunes du quartier. Nous habitons pourtant un quartier qui est bien. C'est-à-dire mains brûlées, tête cognée contre un pilier de pierre, nez cassé, et j'en passe. Donc, il a mis 12 ans pour s'en remettre psychologiquement. Donc, je crois que vous feriez bien peut-être de faire une émission sur les gens qui ont été victimes et non pas sur ceux qui ont semé la pagaille. Merci, au revoir.
Salut, c'est Clément de Rouen. Bon, avec les 140 milliards de dollars, moi, je pensais qu'on pourrait peut-être acheter des tonnes et des tonnes de Chupa Chups. Comme ça, avec la politique du tout sécuritaire et avec la réduction des budgets sur le socio-éducatif, on finira bien par avoir des enfants de 10 ans ou moins en prison. Bon, les petits chérubins, ça leur fera au moins une petite douceur. Et puis au passage, on en gardera une pour notre ami Charles Pasqua. Hein, après ces quelques années de Sénat, bien gâteux, ça lui fera toujours plaisir. Voilà, merci pour tout, salut.
À propos des 147 et quelques milliards de dollars totalement abstraits, je me disais qu'on aurait pu, plutôt que de faire une guerre, on aurait pu en faire plein, beaucoup de guerres, disons. 14,7 guerres, hein, à 10 milliards de dollars la guerre.
Ouais, c'est une idée comme une autre qui est pas mal du tout. Le montant de la cagnotte, c'est-à-dire le montant du coût de la guerre en Irak depuis le début, je l'ai sous les yeux, c'est 140 milliards 733 272 000 dollars à l'heure où je vous parle très très précisément. Voilà, vous avez compris, on continue le jeu qui est de idiot de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cette somme dépensée depuis le début et qui court à une vitesse affolante. Merci pour les réactions sur le reportage d'hier. C'est un reportage de Guy Vanctil à la prison de jeunes de maison d'arrêt pour mineurs de Bois d'Arcy. On a appelé cette série Peine perdue. Merci pour ces beaux témoignages, hein. C'est très précis et très précieux. Aujourd'hui, on va rencontrer Serge Latouche. Serge Latouche, c'est un spécialiste, disons, de la croissance, ou plutôt de la décroissance, du développement, ou plutôt, il est contre le développement. Et c'est une pensée tout à fait qui nous a semblé intéressante à entendre, comme ça, développer des idées avec lesquelles, évidemment, on n'est pas nécessairement d'accord, mais qui sont suffisamment riches, suffisamment articulées pour être intéressantes, nous intéresser, nous interpeller, comme on disait, et qui prélude une émission qu'on présentera demain, un reportage dans la Creuse, dans une entreprise pas comme les autres, qui s'appelle Ambiance Bois. Donc aujourd'hui, Serge Latouche, auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base IGSI au 01 56 40 37 37.
Gilbert, 3. Dis donc, Daniel, tu sais pas compter, tu sais pas faire de comptabilité analytique. Tu nous annonces le coût de la guerre, mais c'est le coût direct. Faut compter la sursécurité aux aéroports, les sursécurités à droite, à gauche, rien que ça, hein, sursécurité, c'est-à-dire en fait du para-guerre. Et puis ensuite, toutes les incidences économiques qui est derrière. Là, je pense qu'on pourra rajouter au moins 2 zéros derrière le chiffre que tu nous annonces.
C'est Marie-Paul, simple quidam. Hier, 30 personnes se sont suicidées en France. Aujourd'hui, 30 personnes se suicident. Demain, 30 personnes se suicideront. Exigeons une société plus humaine. Ne les oublions pas.
Daniel, bonjour. Je suis effondrée par la nouvelle que j'ai entendue ce midi aux informations concernant l'association PIEO, les bateaux entre Portsmouth et la France. Et tout l'ouest de la France, par rapport à Portsmouth, va être supprimé à partir de la fin décembre. Et 1200 emplois vont être effondrés. Et je plains de tout mon cœur ces vies qui vont se retrouver sans travail, et je plains aussi tous ceux qui traversaient, parce que nous faisions partie de ces gens-là. J'ai une fille qui est partie en Angleterre pour avoir du travail il y a 15 ans et elle y est restée, et donc je suis toute retournée de tout ça, mais la vie est la vie, et je sais que On ne tient à rien, on ne tient rien dans les mains. Je suis Marie-Thérèse, j'habite Le Vréteau dans la Manche. Au revoir.
Salut Daniel. Voici ce que j'ai à te dire. France Inter, tu veux rendre...
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Serge Latouche, décoloniser l'imaginaire.
Flight number 2, arriving from New York.
On va par là, demain, dans un genre de paysage comme celui que suggère cette musique, c'est-à-dire, et oui, vous avez reconnu, la Creuse. Demain, on part dans la Creuse, à Faux-la-Montagne. Faux-la-Montagne, ça s'appelle, ce petit patelin. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Eh ben, on va scier du bois. Scions du bois, demain, avec une entreprise tout à fait différente, qui s'appelle Ambiance Bois. Histoire de vous faire patienter, en attendant la révolution, en attendant ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire évidemment la chute de l'Empire américain et les matins qui chantent, quelque chose pour patienter. Patienter parce que ceux d'Ambiance Bois, une vingtaine de personnes, ont inventé une autre façon de travailler, une autre façon de vivre, on pourrait le dire alternative, si le mot n'avait pas perdu son sens, mais quelque chose comme ça. Et ça marche. Qu'est-ce qui marche? Eh bien, ce qui marche, c'est la remise en cause qu'ils ont faite du travail, des relations sociales dans l'entreprise, les tâches, la répartition des tâches, les salaires, le montant des salaires, le temps de travail et le reste du temps, l'implication dans la vie locale, militante, associative. Alors, vous avez pigé, c'est pas la révolution, mais c'est une révolution, c'est au moins une expérience qui remet en cause un tas de certitudes, un tas de clichés, un tas de bof, évidemment qu'on a toujours fait comme ça et on fera toujours comme ça, et ben non. Ambiance Bois prouve qu'on peut faire autrement, et donc ça constitue déjà en soi une subversion, et beaucoup de petites subversions, ça peut faire une révolution, c'est du moins ce que nous croyons. Mais tout ça, c'est demain. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qui est très attentif à une expérience comme celle d'Ambiance Bois, c'est Serge Latouche. Serge Latouche, il est économiste, philosophe, professeur et émérite d'économie à l'Université Paris Sud, il est président de l'association Ligne d'Horizon, il fait un tas de choses, et il a consacré beaucoup de temps de sa vie et de ses écrits au développement et à la croissance économique, ou plutôt, comme je disais tout à l'heure, à l'anticroissance, la contre-croissance, la décroissance. Alors, c'est des mots qu'on entend à longueur de journée, les chiffres de la croissance, il faut de la croissance, la gauche comme la droite sont d'accord, il faut de la croissance parce que la croissance créerait, ben, ce serait bien, la croissance, c'est bien, c'est beau, ça crée de l'emploi, par exemple, ça fait un tas de bonnes choses, enfin, c'est une évidence. Or, c'est pas une évidence pour tout le monde, et c'est pas une évidence pour Serge Latouche. Il n'est pas le premier à mettre en cause la croissance. Depuis le début des années 70, des gens mettent la croissance en doute, avec des noms comme François Partant, Ilan Illich, Ellul, Jacques Ellul. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué un de ses bouquins. Voilà, c'est des penseurs qui sont comme ça, pas très connus, mais qui sont tenaces. Tenaces dans la mesure où leurs idées, leurs pensées s'articulent sur des idées du 20e siècle, du 19e siècle, du siècle précédent, c'est-à-dire le 19e. Et quelle pensée? Bien, celle de ceux que les marxistes appellent les socialistes de l'utopie, c'est-à-dire avec une petite pointe, mais plus une grosse pointe de mépris, en disant, oui, bon, bon, ben, ceux-là, ils sont dans l'utopie. Or, ces utopistes, ben, ils ont, à l'époque, tâché de présenter des contre-feux, des contre-pouvoirs, des alternatives au capitalisme grandissant, féroce, envahissant, destructeur. Ils avaient déjà compris qu'évidemment, tout ça conduisait à certaines destructions humaines, sociales et environnementales. Alors l'environnement, je ne sais pas si on en avait une... C'était une préoccupation au début du 19e siècle, mais en tous les cas, ça l'est devenu à notre époque. Et c'est une des idées de Serge Latouche et d'autres qui sont intéressés par ce courant de propositions et de pensées qui est de dire il faut arrêter la croissance. Alors, ça peut paraître provocant, ça peut paraître évidemment la première question qu'on se pose, mais alors, qu'est-ce que vous voulez, c'est revenir au temps de la lampe à huile. Voilà pourquoi on va passer cette heure avec Serge Latouche, décoloniser l'imaginaire.
Aujourd'hui, 20% de la population mondiale, les pays riches, consomment 80% des ressources naturelles de la planète. Alors le 26 novembre, à l'occasion de la journée sans achat, faites un geste pour la Terre. Arrêtez d'acheter. Merci.
Oui, Serge Latouche, je me demandais, en vous voyant arriver, combien de fois on vous a dit, mais vos idées, ça consiste à revenir au temps de la lampe à huile et de de l'âge de pierre.
Oui, alors je pense que c'est une question qui a dû être aussi posée à Ivan Illich, qui est considéré comme un de mes inspirateurs. Et alors je réponds, quand on me demande ça, je dis toujours non, je veux revenir beaucoup plus en arrière, chez nos cousins bonobos qui avaient inventé une culture fantastique et qui préféraient faire l'amour plutôt que la guerre. Blague ouais. À part, je crois que, puisque la question essentielle à l'heure actuelle, c'est que notre impact sur la biosphère est excessif, hein, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, hein, que nous consommons, comme disait notre président à Johannesburg, 3 planètes, c'est de nous ramener à une seule planète. Or, il n'y a pas si longtemps que l'empreinte écologique de la France, par exemple dans les années 70 encore, nous ne consommions qu'une planète. C'est-à-dire que revenir au niveau de vie, bon, évidemment ça suppose une toute autre organisation des années 70, c'est pas quelque chose d'absolument catastrophique.
Mais on va prendre des mots simples, enfin des mots simples, des mots très très communs, quotidiennement entendus. On va prendre le mot croissance, hein, ça c'est un des mots que vous avez sans doute le plus prononcé dans votre vie. On nous dit, il faut de la croissance, ayons une politique de croissance, et la croissance c'est bien, c'est beau, c'est comme le progrès, enfin c'est toutes ces choses qui sont positives. Et la croissance, eh bien, ça amènera à l'emploi, la croissance. Enfin, voilà l'avenir, voilà le but. On entend ce mot à longueur de journée. Et vous faites partie de ceux, et depuis longtemps, pour ce qui vous concerne, qui disent non. Alors, non à la croissance. Quel sens, d'abord, vous donnez à ce mot croissance? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot?
Alors, bon, on sait que la croissance économique, c'est dont on a un indice qui est fétiche, qui est la croissance du produit intérieur brut. Global ou par tête. Et alors, quand on dit croissance, c'est un mot piège, parce que bien évidemment, qui peut être contre la croissance? En fait, il faut penser que nous sommes dans une société de croissance, c'est-à-dire un système organisé où la croissance est un but en elle-même. C'est un système qui est fondé sur la croissance pour la croissance. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire croître la production pour faire croître la consommation, pour faire croître la production. Pour faire croître, c'est un cercle infini. On pourrait parler du synclodrome, du rasoir électrique de Nicolas Gerhardt-Skruggen. Il disait, pourquoi inventer un rasoir plus performant? Pour gagner du temps. Mais pourquoi gagner du temps? Pour pouvoir inventer un rasoir encore plus performant, pour gagner du temps, pour inventer. Eh bien, on est un peu dans cette espèce de cercle vicieux du toujours plus, d'une absence de limite.
Est-ce que la croissance crée de l'emploi? Parce que c'est ce qu'on nous dit en permanence.
Lorsque, dans les années qu'on appelle les 30 glorieuses, incontestablement, la croissance a créé des emplois. Il faut voir à quel prix, mais elle a créé
45,
des emplois.
75, la croissance crée de l'emploi.
Créait des emplois. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la croissance, ou en tout cas les taux de croissance que nous connaissons dans les pays occidentaux, ne créent plus d'emplois, elles en détruisent. bien sûr, une récession en détruit encore plus. Donc on est pris dans un piège, c'est-à-dire si l'on ne croit pas assez, il y a du chômage, et si l'on ne croit pas du tout, il y a encore plus de chômage. Donc, à l'heure actuelle, pour pouvoir créer des emplois, il faudrait des taux de croissance supérieurs à 3%, ce qui est extrêmement difficile pour les pays du Nord.
Alors, vous faites, dans la critique que vous faites de la croissance, vous dites que la société de croissance engendre des inégalités, des injustices, crée un bien-être illusoire et une antisociété malade de sa richesse. Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu ces...
Oui, alors bon, on pourrait écrire des livres là-dessus. La croissance à l'heure actuelle, engendre d'abord un prélèvement sur la nature qui n'est plus soutenable. C'est-à-dire que pour continuer à croître, nous devons détruire toujours plus notre habitat, produire des gaz à effet de serre qui ont comme conséquence maintenant acceptée à peu près par tous le dérèglement climatique. Nous devons produire toujours plus de déchets dont nous ne savons plus que faire, détruire les matières premières, détruire les forêts, etc. Donc alors, et les retombées, ce que les économistes appellent les externalités négatives de cette croissance.
Externalités négatives.
C'est-à-dire ces effets qui ne sont pas comptabilisés, mais qui se traduisent sous forme de dysfonctionnement, de coûts pour les individus, qui sont obligés, par exemple, à cause de la pollution. On connaît maintenant le rapport du professeur Belpomme sur les effets cancérigènes des rejets dans l'atmosphère, des métaux lourds, des quantités de choses. Et nous sommes tous plus ou moins... tout homme bien portant maintenant est un malade qui s'ignore, et donc nous devons continuellement prendre des médicaments pour compenser les dysfonctionnements sanitaires engendrés par la pollution. Donc on est arrivé à un moment, comme je dis, la croissance crée un bien-être illusoire. On en a des indices assez solides. Un ancien directeur de la Banque mondiale, qui n'est pas Stiglitz, mais qui est plus ancien, Herman Daly, a mis au point ce qu'il appelle « genuine progress indicator », c'est-à-dire un indice du progrès authentique, du bien-être authentique. Et il montre, en déduisant du PNB fétiche, en déduisant les dégâts produits à l'environnement, et en ajoutant quelque chose d'assez intéressant, le produit domestique. La croissance a aussi des effets de déplacement, c'est-à-dire qu'on consomme moins de produits non marchands, parce que ceux-ci disparaissent, et on remplace des consommations gratuites par des consommations payantes. Le meilleur exemple, évidemment, c'est lorsqu'une femme qui préparait les repas va travailler, elle augmente le produit national brut, mais parce qu'on achète les repas alors qu'avant, on les payait pas. Et il a montré... pour les États-Unis, qu'à partir des années 70, il y a ce que les statisticiens appellent un ciseau, c'est-à-dire qu'alors que le produit intérieur brut continue à augmenter, le bien-être diminue. Alors, l'idée provocatrice, un peu qui nous est venue, c'est que si on diminuait le produit intérieur brut, on augmenterait de nouveau le bien-être, on renverserait le ciseau.
Vous dites, la société de croissance engendre des inégalités, des injustices. Dans quelle mesure ?
Alors, là, je crois qu'il suffit de lire les rapports annuels du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui est un catalogue d'horreurs chaque année. On apprend qu'il y a encore un peu plus d'injustice dans le monde. Il y a quelques années, les 15 plus grandes fortunes de la planète avaient un patrimoine supérieur au produit de toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 600 à 700 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est plus 15, c'est 3. Alors on a d'un côté 3 personnes immensément riches et 600 millions de gens qui se débrouillent avec presque rien. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est bon, mais il y en a des quantités comme ça. Et ces inégalités se sont développées de façon fantastique à partir des années Reagan-Thatcher, et où ce qui était nouveau, parce qu'on peut dire quand même que pendant les 30 glorieuses, il y avait une certaine répartition des fruits de cette croissance. À l'heure actuelle, il n'y a plus de répartition, c'est-à-dire que les riches deviennent toujours plus riches, au nord comme au sud, et les pauvres toujours plus pauvres.
Mais est-ce que c'est pas tout simplement le libéralisme ou le capitalisme que vous attaquez, enfin qui produit cette croissance
Alors, nous avons eu pendant 70 ans l'expérience d'une société qui pensait rompre avec le capitalisme, mais qui n'a pas rompu avec la société de croissance. c'est-à-dire qui partageaient le même imaginaire d'une croissance pour la croissance et qui engendrait les mêmes conséquences au niveau écologique, il suffit de penser à Tchernobyl, mais aussi au niveau social, finalement, un peu moins, il y avait sans doute un peu moins d'inégalités, mais il y avait le même imaginaire de la croissance pour la croissance. Ça se traduisait aussi moins de consommation individuelle, mais plus de consommation militaire. Donc il s'agit bien sûr de remettre en cause le capitalisme, mais derrière le capitalisme, ce que le capitalisme partage avec ce qui était considéré comme son autre, le socialisme, tout un imaginaire du progrès, de la croissance, du toujours plus, d'une vision de l'histoire, d'un sens de l'histoire linéaire, pensant que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, lequel était meilleur qu'hier, etc.
Et ça, vous n'y croyez pas. Pour vous, dans votre travail, dans votre recherche, dans votre idée de décoloniser l'imaginaire, on va venir à votre un de vos bouquins, parce que vous avez écrit pas mal quand même depuis le temps. Pour vous, la notion où vous placez la notion de progrès là-dedans?
Non, alors je crois que le progrès est une croyance, il fait partie de la foi. Alors moi, je l'ai eu. Je suis parti dans les années 60 en Afrique pour développer l'Afrique, puis ensuite je suis parti au Laos pour faire la comptabilité nationale du Laos, donc j'y ai cru, la planification, tout ça. J'ai perdu la foi dans ces années-là, 67, 68, par là, parce que surtout au Laos, j'ai vu une société traditionnelle heureuse. Toutes les sociétés traditionnelles sont pas heureuses, toutes les sociétés heureuses ont aussi des problèmes. Enfin, j'ai vu une société relativement heureuse qui ne demandait qu'une chose, c'est qu'on lui foute la paix. Alors les Américains bombardaient d'un côté, les Chinois, les Vietnamiens de l'autre, etc. Et les gens respiraient qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse tranquilles vivre, semer leur riz, écouter leur riz pousser et vivre autour de leur pagode. Alors on a détruit cette société au nom du développement, du progrès, de la croissance, etc. Donc ça fait réfléchir quand même.
Alors d'où votre travail sur la décroissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la décroissance? C'est pas un mot nouveau. On avait apparaître ce mot au début des années 70. La décroissance.
Oui. Alors, la décroissance, c'est pas le symétrique de la croissance. La croissance est un concept on a fait des théories de la croissance. La décroissance, c'est un slogan qui, comme tout slogan, a pour objectif de provoquer d'abord une sidération, parce qu'on dit comment c'est possible de se mettre derrière la bannière de la décroissance. Ça veut dire, en fait, le mot qui serait le plus juste serait de parler d'accroissance, avec le A privatif grec, comme on parle d'athéisme. Et il s'agit bien de la même chose, il s'agit bien d'une question de religion et de foi. La croissance est une religion, donc il s'agit de casser ce culte de la croissance pour la croissance. Bien évidemment, ça serait absurde d'adorer la décroissance pour la décroissance. C'est pour marquer la rupture avec tout cet imaginaire qu'on a évoqué de la croissance, du progrès, du développement, pour retrouver ce que pourrait être la construction d'une société autonome, économe, solidaire, conviviale.
Vous allez vous dire c'est un retour en arrière. Est-ce que ce serait un retour en arrière?
Sûrement pas, parce que je pense que on retourne jamais en arrière. Il y a eu dans le passé des sociétés qui se sont en partie approchées de cet idéal, certaines réussites historiques dans l'histoire, mais aucune n'a vraiment, et d'ailleurs on réussira probablement jamais à construire une société parfaitement juste, parfaitement équilibrée, où tout le monde se sent bien, etc. Il y a la condition humaine probablement comporte son lot de, mais on peut
y tendre.
Oui. Le problème, c'est qu'on est dans une société du toujours plus. Donc on est sûr que cette société n'engendrera jamais la satisfaction. Puisque tout l'objectif de la publicité, c'est de nous convaincre que nous sommes insatisfaits de ce que nous avons pour désirer ce que nous n'avons pas. Donc plus nous en avons, moins nous sommes satisfaits, parce qu'il en faut toujours plus. Une société peut penser construire une société apaisée avec elle-même si elle se donne un objectif qui est limité. C'est cette perte du sens des limites, ce que les Grecs considéraient comme le crime par excellence, l'hubris, la démesure. C'est ça qui est le problème de notre société.
On avait des poules dans nos poulaillers, on avait des haricots dans nos jardins, on trouvait dans les bois de quoi se soigner, mais il n'y a plus que les pharmaciens. On fabriquait tous des jouets en bois, maintenant on casse tout ce en plastique. On en achète d'autres, on se tracasse pas, mais y a plus un gosse qui fait de la musique. Alors consomme Simone, comme une brave conne, sinon à quoi ça sert qu'il travaille ton homme Simone. La 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 la. La 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 la. Remplis tes placards et prévois l'hiver. Le monde est si noir qu'on attend la guerre. Investis un peu dans une caméra, et si tu ne le peux, la banque t'aidera. Profite surtout des crédits et des soldes, des achats en gros, de la visite de Jean-Paul. Achète-toi une robe à chaque occasion, et n'écoute surtout que ta télévision. Vas-y, consomme Simone, comme une brave conne. Sinon à quoi ça sert qu'il travaille ton homme Simone. La 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 la. La 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 la. Consomme un max. Consomme un max.
Alors concrètement, ça donnerait quoi dans la vie quotidienne, dans la cette décroissance?
Alors,
ça s'appliquerait comment? Ça passerait par où? Parce que là, on est dans les idées. On dit, ben oui, oui, il a raison. C'est vrai qu'on gâche. C'est vrai qu'on escale tout. C'est vrai que cette société de consommation imbécile, on le sent tous. Enfin,
concrètement, on peut déjà, réduire considérablement. C'est d'ailleurs une nécessité auquel on sera contraint par la force des choses et probablement de la pire des façons, c'est-à-dire par la violence. On sera contraint de réduire notre niveau de vie, notre mode de vie, hein, parce que on aura épuisé nos ressources naturelles. Quand il y aura plus une goutte de pétrole, on sera bien obligé de laisser nos sacro-saintes voitures au vestiaire. Mais on peut la concevoir donc comme une réduction du fantastique gaspillage de nos sociétés. On pensait que le budget mondial publicitaire, hein, et on peut penser que la publicité, donc j'ai dit qu'elle engendrait des insatisfactions psychologiques, mais elle engendre aussi une pollution visuelle, une pollution sonore, une pollution mentale, hein, et une pollution spirituelle. Donc ça représente environ 400 à 500 milliards de dollars. C'est le deuxième budget mondial, à ma connaissance, après le budget militaire, qui lui aussi pourrait être redimensionné, 800 milliards de dollars. Bon, alors on a là des réserves énormes, qui, toutes choses égales d'ailleurs, permettraient d'améliorer les conditions de vie en diminuant l'empreinte écologique, en diminuant notre poids sur la biosphère. Bien évidemment, on pense, mais c'est totalement irréaliste, puisque ce système repose sur la publicité. Donc ça suppose un changement de système, hein, et le changement de système, comme vous savez, ça se décrète pas vraiment. Ça suppose aussi un changement d'imaginaire, mais ça peut commencer, on peut commencer. Alors je pense qu'il y a toute une série de chaînons. On ne pourra pas bouleverser les choses brutalement, mais on peut commencer petit, on peut commencer là où on peut commencer à tous les échelons, on peut commencer à tous les niveaux. L'un des niveaux les plus importants, à mon avis, c'est ce que nous appelons la relocalisation, retrouver le sens du local. Une des choses les plus aberrantes, c'est de penser que les consommations actuelles incorporent au minimum 5000 kilomètres de transport. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons. Et je prends toujours l'exemple un peu emblématique du petit yogourt à la fraise. Hein, le Wuppertal Institute, qui est un grand institut écologique en Allemagne, a calculé que le petit yogourt à la fraise que l'on trouve sur les étals des supermarchés incorpore plus de 9000 kilomètres. C'est dingue. C'est dingue. Quand on pense, sans revenir à l'âge de pierre, que du temps de mes parents ou de mes grands-parents, on mangeait du yaourt fabriqué à la maison, avec le lait de la ferme d'à côté et les fraises du jardin. C'est-à-dire, il incorporait quelques dizaines de mètres à pied. Hein. 9000 kilomètres pour un petit yogourt. Et c'est la même chose pour tout, avec les conséquences désastreuses, évidemment, de ces transports délirants qui engendrent l'effet de serre et de temps en temps des catastrophes comme ce qui s'est passé sous le tunnel sur le Mont Blanc, qui est assez intéressant, puisque les camions qui ont été cause de l'accident transportaient des pommes de terre qui venaient de Hollande et qui allaient en Italie pour se faire transformer en chips et pour retourner en Hollande. Est-ce vraiment raisonnable?
Où est-ce que vous mettez le travail dans votre idée, dans votre projet, l'activité humaine, où est-ce que vous la mettez? Parce que on nous dit, à longueur de journée, il faut de la croissance pour avoir de l'emploi. Hein? Où est-ce que vous placez l'activité humaine là-dedans? Je sais que Jacques Ellul, dont on a parlé dans une émission, je crois l'année dernière, prétendait qu'on pouvait arriver à travailler 2 heures par jour. Enfin,
hein. Oui, j'en suis convaincu moi aussi.
2 heures par jour.
Je pense, enfin je ne sais pas si c'est 2 ou 3, c'est pas important, même si c'est 10. Parce que d'abord, il faut abolir la notion de travail, je crois, la question. Je pense que vous comme moi, nous sommes partis de gens qui ne savons pas où passe la frontière entre le travail et le non-travail. C'est-à-dire, nous avons une activité, est-ce 10 heures, 12 heures par jour, 8 heures, personnellement, j'en sais rien, parce que j'ai la chance de faire des choses qui me plaisent, je compte pas. Oui. Donc, c'est précisément ça auquel il faut arriver, c'est-à-dire abolir cette obsession du travail. Alors, on est, à l'heure actuelle, on est dans un monde absolument délirant. Je pense en France, on dit les Français travaillent pas assez, ils travaillent trop, enfin, on sait plus où on en est. Le travail est une pièce maîtresse de la société de croissance, avec l'idée produire toujours plus, pour consommer toujours plus, pour produire toujours plus, et pour ça, travailler toujours plus. Donc, en fait, malgré les réductions théoriques des horaires de travail, en fait, on n'a jamais autant travaillé indirectement, ou tout au moins le temps, ce qu'on pourrait appeler le temps contraint, parce que quand on diminue les horaires de travail, on augmente les horaires de transport. Donc on a un temps contraint qui finalement est toujours plus fort. On n'a jamais, depuis l'histoire du capitalisme, transformé les gains fantastiques de productivité en réduction de la pénibilité. Donc la première chose, c'est aussi de sortir de la religion du travail. Sortir de la religion du travail, découvrir les autres dimensions de l'activité humaine. Alors j'aime beaucoup l'analyse que faisait Hannah Arendt. Bon, il y a deux. D'abord une division fondamentale, la via contemplativa et la via activa, c'est-à-dire la vie active et la vie contemplative. Toutes les sociétés ont connu, ont accordé une part énorme à la vie contemplative. Nous l'avons complètement rayée à partir du 16e, 17e siècle, elle a été rayée de la carte. Mais à l'intérieur de la vie active, il y a le travail, il y a l'œuvre et il y a l'art.
Le travail, l'œuvre et l'art.
Oui.
Okay.
Nous avons à l'heure actuelle, en fait, réduit l'art et l'œuvre, l'avons soumis aussi au travail. C'est-à-dire que le travail est devenu le paradigme dominant de toute activité humaine.
Toute cette recherche, cette pensée qui est la vôtre, encore une fois, elle s'inscrit. Vous avez des maîtres, vous avez des références, pas seulement Hannah Arendt. On a parlé de Jacques Ellul, de François Partant. Parlez un peu de François Partant.
Alors, je suis, comme vous le savez, président d'une association qui s'appelle La Ligne d'Horizon, ou Association des Amis de François Partant. Donc, je m'inscris évidemment dans le fil de cette pensée, qui est effectivement assez proche aussi de celle de Jacques Ellul et d'Ivan Illich. Je vous rappelle qu'Illich se considérait comme un disciple de Jacques Ellul. Donc, il y a toute une filiation de ce courant critique du système, mais en même temps qui cherche la voie dans des alternatives d'un autre type par rapport à la grande alternative en Occident qui a été le marxisme et le socialisme. Parce que l'analyse se base sur une critique qui n'a malheureusement pas été faite par Marx, c'était la critique de la technique, de la société technicienne, même la critique du travail et la dimension écologique. Alors on pourrait citer d'autres prophètes en quelque sorte, revenir à Gortz aussi, qui est toujours
André Gortz,
qui a une pensée importante, et Cornelius Castoriadis, parce que l'idée de société autonome, effectivement, d'une société auto-instituée, fait partie de notre projet. Et
cette émission depuis des années est placée sous les auspices de Cornelius Castoriadis.
Il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je...
Castoriadis, 1996, là-bas, si j'y suis.
Enfin, je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne vois pas comment l'Europe, en tout cas, pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or, les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. C'était pas des révolutionnaires, c'était pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs.
Alors, je voudrais qu'on revienne encore en arrière. Revenons à tous ces socialistes de l'utopie. Vous parlez, vous avez évoqué Karl Marx, mais en même temps, face à cette révolution industrielle, face à la montée de cette forme du capitalisme industriel, on a eu une suite d'alternatives à l'époque. On les a appelés les socialistes de l'utopie, qui ont essayé de mettre en place des contre-feux, des contre-pouvoirs, des contre-systèmes.
Oui, alors, on peut dire que la société industrielle capitaliste, les deux se sont mis en place en même temps, a engendré tant d'horreurs, hein, qu'elle a immédiatement créé des réactions, des résistances, et puis des réactions d'essayer de concilier un type de fonctionnement industriel avec un autre type d'organisation sociale que le rapport capitaliste. Au fond, ce qui semblait le plus insupportable, le plus scandaleux, le plus contradictoire, c'était le rapport salarial. Une société, surtout pour la société française, société issue d'une révolution dénonçant les injustices et tentant de construire une démocratie, se trouve avec des entreprises industrielles où les ouvriers perdent à peu près tous leurs droits. Donc on a une contradiction entre l'économie qui finalement fonctionne selon une logique d'ancien régime, d'un pouvoir absolu, arbitraire et tyrannique du patron et du capital, et puis une société politique qui se veut fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Et l'un des premiers socialistes dit utopique, Pierre Leroux, était extrêmement sensible à cette contradiction. Et il proposait comme solution, c'est lui qui a développé l'idée, il appelait ça l'association. L'association, c'est-à-dire on n'a plus des salariés et des dépendants, mais des associés. Et il se méfiait beaucoup du socialisme. C'est lui qui a inventé le mot socialisme, mais il s'en méfiait beaucoup parce qu'il voyait très bien, il était conscient de la contradiction entre la liberté individuelle, auquel il restait très attaché, l'individualisme, et le collectivisme et ses côtés oppresseurs. Donc il a tenté de mettre en place dans le Limousin, avec l'assistance financière de Georges Sand, d'ailleurs, qui était sa maîtresse, de mettre en place une coopérative de production d'associés. Et ce courant associatif, on a parlé, serait plus juste plutôt que de dire socialisme utopique, qui est la façon dont Marx a voulu éliminer question, de parler de socialisme associatif. Ce courant associatif a été, bon, évidemment, on n'a pas renversé le capitalisme, mais il a été toujours vivant tout au long du 19e siècle et du premier 20e siècle.
D'autres exemples, celui du familistère de Gaudin, exemples de Fourier, etc.
Il y a eu beaucoup d'initiatives de capitalistes philanthropes, dans le fil de Owen en Angleterre, qui avait mis en place les premières coopératives de production, dont certaines ont survécu jusque assez récemment. Et il y a eu donc le familistère de Gaudin qui s'inspire du phalanstère de Fourier et qui fonctionne toujours, mais qui n'est plus un familistère, et donc qui est une expérience intéressante. Il y en a eu comme ça pas mal. Certaines se sont délocalisées, pensant que dans les États-Unis, vierges, on pouvait faire des communautés. Il y a eu tout un courant extrêmement fort autour de Cabet et l'Icarie. Et donc, Cabet lui-même est allé finir ses jours dans l'Illinois, chez ses disciples. Beaucoup de ces expériences ont mal tourné, comme les communautés qui sont nées, qui ont fleuri après 68, les 68ards, victimes de leurs contradictions, des problèmes, des histoires personnelles. Enfin bon, c'était une forme de laboratoire pour voir comment il est possible de concilier un mode de production industriel et un rapport social moins déséquilibré.
Parlez-moi du développement durable. Voilà encore une expression qu'on entend à longueur de journée, le développement durable. On dit c'est bien développement, c'est beau le mot développement, et puis durable c'est bien. Hein, y a des tas de mots comme ça, croissant, développement durable, libéralisme, c'est beau libéralisme, il y a liberté dans libéralisme, développement durable.
Alors, je considère que le développement durable est la plus grande escroquerie intellectuelle du siècle, hein, et c'est le plus bel oxymore engendré par l'esprit humain, c'est-à-dire contradiction. On a une contradiction réelle, hein, l'incompatibilité fondamentale, radicale du développement économique avec la survie de la planète, tout simplement pour une raison très élémentaire, hein, c'est que un monde fini est incompatible avec une croissance infinie. Et à partir de là, évidemment, pour ne rien changer, pour ne pas remettre en cause le système, on cherche toutes sortes de biais, et le meilleur biais, évidemment, pour ne pas changer les choses, c'est de changer les mots. On accole deux mots contradictoires. Le développement, qu'il s'agit absolument de faire durer, d'ailleurs beaucoup entendent développement durable, puisqu'on a traduit la sustainabilité par durable en français, développement durable comme un développement qui pourra durer éternellement, hein. Et la préservation des écosystèmes ou de la biosphère, hein, c'est-à-dire la soutenabilité. Alors la soutenabilité, l'idée qu'il faut sauver la planète, c'est évidemment une idée magnifique, hein. Le problème, c'est que c'est totalement incompatible avec le développement réellement existant, mais aussi avec l'imaginaire du développement, c'est-à-dire l'imaginaire d'un toujours plus, d'un système sans limite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au fond, le développement durable met d'accord tout le monde, puisque chacun y trouve son compte. Hein, les écologistes disent, c'est très bien, c'est la survie de la planète. Les industriels, c'est très bien, c'est la survie de l'industrie. Voilà, et tout le monde est d'accord. Alors, je pense qu'un mot d'ordre qui met d'accord des gens qui ont des intérêts fondamentalement contradictoires est une mystification. C'est comme une clé qui ouvrirait toutes les portes.
Vous parlez de la pédagogie de la catastrophe. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de passer par la catastrophe pour comprendre quelque chose, mais au moins pourrait-on essayer effectivement de tirer des enseignements d'un certain nombre de catastrophes. Vous parlez de Tchernobyl, vous parlez de la vache folle, vous parlez de l'Erika, etc.
Oui, alors, je pense qu'il y a deux forces qui mènent les hommes. Hein, l'idéal ou les aspirations, et puis le coup de pied dans le cul. Mmh. Alors, l'idéal, on a besoin de l'idéal. Le coup de pied dans le cul tout seul, ça suffirait pas. Les hommes ne marchent pas uniquement par la force et la contrainte. Ils ont besoin d'avoir des aspirations, des idéaux. Alors, les aspirations, les idéaux, c'est un peu tous ceux dont on vient de parler, les expériences alternatives, un autre monde. Bon. Mais cet autre monde, pour y entrer, il faut qu'on soit un peu bousculé. Parce que nous sommes des drogués de la croissance. Et les drogués ont cette particularité qu'ils recherchent moins les médecins susceptibles de les désintoxiquer que les dealers susceptibles de leur fournir leur dose. Donc nous sommes comme ces drogués, et pour passer du dealer au soignant, eh bien il faut que nous ayons des motivations sérieuses, et ça c'est les catastrophes. On s'aperçoit que les catastrophes, alors c'est une idée qui ne m'est pas propre, je l'ai reprise à Denis de Rougemont qui disait « Je sens arriver, créé par nos soins diligents, des catastrophes terrifiantes. Si celles-ci sont néanmoins pas trop fortes pour permettre à l'espèce humaine de survivre, mais assez fortes néanmoins pour la réveiller, je les appellerai pédagogiques. »
Oui, mais attendez, là vous citez des exemples, Tchernobyl, la vache folle, l'Erika et la canicule, je prends ces exemples-là. On a tiré des enseignements?
Oui, après Tchernobyl, il y a eu le référendum en Italie sur le nucléaire. L'Italie a refusé les centrales nucléaires. La France, évidemment, a une telle culture du nucléaire qu'on ne nous a pas demandé la question. S'il y avait eu un référendum, probablement, il aurait été dans le même sens. Donc la France est un cas un peu particulier, puisque nos ministres avaient interdit aux nuages radioactifs de franchir la frontière.
Oui, on s'en souvient.
Mais pour le monde, ça a été un véritable réveil. Il ne faut pas oublier que la préoccupation écologique qui avait émergé en 1972 avec la conférence de Stockholm avait complètement disparu dans les années 75-80 après le choc pétrolier. Et on avait des choses sérieuses. Donc, il n'y avait plus de ministère de l'Environnement. Les premières revues écologiques comme La Gueule Ouverte avaient disparu. Mm-hmm. Et le sursaut écologique est apparu après le 25 avril 1986, c'est-à-dire l'explosion du quatrième réacteur de Tchernobyl. Donc, ça a été un véritable réveil. Bien sûr, c'est pas suffisant. Alors, on peut se demander, on est pris dans une course de vitesse. Hein. Est-ce que la planète explosera avant que la prise de conscience ait atteint le niveau suffisant pour qu'il y ait une réaction? Moi, je suis relativement optimiste. Il faut être optimiste. Je vais souvent en Italie, je reprends la formule de Gramsci. Je tempère le pessimisme de la raison, parce que c'est vrai que si on analyse les choses objectivement, on serait plutôt pessimiste. Mais je tempère le pessimisme de la raison par l'optimisme de la volonté.
Merci Serge Latouche. Je rappelle ses bouquins « Décoloniser l'imaginaire, la pensée créative contre l'économie de l'absurde » aux éditions Parangon, et puis « Survivre au développement » édition « Mille et une nuits ». Plus d'informations sont à votre disposition sur le site « Là-bas si j'y suis » en allant sur franceinter.com. Je regarde le chiffre total du coût de la guerre en Irak depuis le début. 140 738 544 000 dollars. Et ça va s'inscrire dans le produit intérieur brut des États-Unis. Ça contribue à la croissance. Ça fait partie du chiffre de la croissance. Merci à tous. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Yann Chouquet, Pascal E, Pascal Riello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de la base J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Demain, donc, on va dans le Limousin, à Faux-la-Montagne, scier du bois. Et auparavant, tout de suite, ce que vous attendiez, je le sais, la réclame.